Sirène et Blablabla, le rendez-vous mensuel des arts dans l'espace public proposé par Grenouille et Lieux Publics, Centre National de Création des Arts de la Ruche. Deuxième saison de cette émission dans laquelle artistes, producteurs et critiques débattent en public des enjeux de la création dans l'espace public. Une émission atypique pour entamer cette deuxième saison et atypique à bien des égards. Tout d'abord parce que nous ne sommes pas au Longchamp Palace mais à l'Alcazar. Ensuite parce que plutôt qu'un plateau radio, nous allons vous diffuser dans quelques minutes une conférence qui s'inscrit dans la programmation du festival Small is Beautiful. L'Agence nationale de psychanalyse urbaine, l'ANPU, c'est une cellule de chercheurs, urbanistes et architectes triés sur le volet, disent-ils, allonge sur ses divans la ville de Marseille et la Belle de Mai en particulier. Une consultation qui est pour une fois gratuite, du moins pour les habitants, qui peuvent y déposer chacun une parcelle de l'inconscient collectif de la ville. Cette psychanalyse urbaine n'étant pas, hélas, remboursée par la Sécu, ces lieux publics, associés pour le coup au banc public, lieu d'expérimentation culturelle à Marseille, qui paye le prix fort. Et puis, une émission décidément atypique aujourd'hui, puisque exceptionnellement, nous ne sommes pas en direct, nos réseaux informatiques ayant été frappés d'une bouffée délirante. Ce soir, en tout cas, mercredi 7 octobre, à l'Alcazar, quelques éléments théoriques nécessaires pour bien assimiler les pourquoi et les comment de la psyché urbaine, de ses névroses et de sa libido, avant que l'agence nous livre son diagnostic et peut-être, pourquoi pas, une thérapie dans un final grandiose vendredi 9 octobre, place Cafou, dans le 3e arrondissement, de 9h à 19h. Tout de suite, World Analysis épisode 2, les utopies municipales décryptées par Laurent Petit.
Merci. Merci et merci à Radio Grenouille et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence qui vous est donc proposée par l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et par le collectif Existe, qui est donc l'agence d'architectes partenaire de l'opération. C'est un peu le deuxième volet de trois volets qui vont aboutir vendredi dans l'église de la place Cafou, où là on va présenter les résultats de l'enquête qu'on mène actuellement sur Marseille via le prisme de la Belle de Mai. On ne sait pas encore à l'heure qu'il est si on va baptiser cette conférence le Grand Marseille ou le Très Grand Marseille. Donc, lundi, bon, quand même, avant de commencer, je vais quand même préciser que toutes ces recherches s'inscrivent dans un plus vaste projet qui va donc consister à psychanalyser le monde entier. Au travers d'un plan quinquennal, qui verra donc son aboutissement le 24 décembre 2012, c'est un vendredi, à 23h, à New York, devant le siège de l'ONU. Venez nombreux, puisqu'un vin chaud vous sera proposé lors de la proclamation des résultats. Oui. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes, toutes les personnes qui nous ont aidés à mener les enquêtes dont vous allez découvrir les résultats dans ce deuxième volet, à commencer par l'agence d'urbanisme de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, L'agence. L'agence de téléphone. Non, pas l'agence de téléphone, mais l'agence de l'eau de Chalon en Champagne et d'autres agences moins connues. Merci également au conseil régional ou au conseil général, au conseil en général du Nord-Pas-de-Calais, le Grand Lyon, ainsi que l'ensemble du personnel du bar-restaurant Le Ch'ti Pékeu à Roubaix, les habitués du Sullivan à Cergy et le directeur de la taverne de la Croix d'Or à Châlons-en-Champagne. Merci également à un gendarme en liberté, un gendarme retraité, et une dame qui prétend être la femme du Père Noël. Toutes ces personnes, nous les avons interrogées au cours de ces enquêtes, et elles nous ont permis de mettre en évidence toute une matière qu'il a fallu ensuite classer, interpréter, avec toute l'équipe de la NPU, qu'on voit ici avec Fabienne, qu'on surnomme Fafa. C'est un peu l'agent de liaison de la NPU, puisqu'elle est chargée de rassurer les villes avant vraiment de les allonger sur le divan. Là, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Maud Lefloc, alias MLF. C'est un peu l'éminence grise de la NPU, puisqu'elle est aussi directrice du Polo. Le pôle des arts urbains, et on la surnomme entre nous la Corbusière. Là, c'est Pierre Schneider, qui est donc, comme son nom l'indique, alsacien de formation, et il se définit lui-même comme architecte potentialiste, c'est-à-dire un architecte qui a du potentiel, mais bon, comme beaucoup d'architectes, il a du mal à l'exprimer. Alors ici, c'est Gilles Bourbon, qu'on surnomme entre nous Gilles Bourbon, et lui, il est urbaniste. Alors que là, on a Charles, alias Charlie, qui est un peu, je dirais, l'éminence noire de la NPU, parce qu'il est souvent aux réunions, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Mais quelque part, sa présence nous rassure. Alors, toutes ces personnes, toute l'équipe, je la remercie, même si elle n'est pas là, elle nous a permis, quelque part, au bout d'un an de recherche, de mettre en place une sorte de méthodologie de psychanalyse urbaine qui commence lorsque... qui commence lorsqu'on se retrouve devant un territoire patient, eh bien, c'est de déterminer son arbre mytho-généalogique, parce que on cherche un peu l'arbre généalogique du territoire, sauf que la plupart des ancêtres sont des êtres mytho-logiques, d'où l'arbre mytho-généalogique. Bon, voilà. Ensuite, on regarde comment le territoire patient traverse les épreuves de l'histoire, que sont les guerres, les épidémies, les famines, les crises économiques, mais ça peut être un événement beaucoup plus banal, comme une descente en deuxième division, qui traumatise des villes comme Marseille, à tout jamais. Ensuite, avec ça, on détermine ce qu'on appelle un PNSU, un point névro-stratégique urbain, c'est-à-dire un endroit de la ville où se focalisent les névroses urbaines. Et ce PNSU, on le traite avec des truies et des tras, c'est-à-dire des traitements radicaux urbains et des traitements radicaux architecturaux pour que la ville retrouve son plein épanouissement d'ici 2100 ou 2080, si tout se passe bien. Donc le deuxième volet aujourd'hui, c'est donc les utopies municipales. C'est un terme qu'on a donc trouvé en étudiant la zone de l'Union, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un territoire situé entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, dans le nord. Et c'est une sorte de projet, urbanistique et industriel, un peu comme Euromède, mais quelque part en pire, en moins bien, puisque à Roubaix, il n'y a pas du tout la mer. Alors, c'est un projet lié là vraiment au textile, avec des centres de technologie textile extrêmement perfectionnés. On va par exemple raconter que on allait cloner là des molécules d'ADN de chèvres avec des molécules d'ADN d'araignées pour faire des hamacs extrêmement résistants. Et on va cloner des molécules d'ADN de moutons avec des molécules d'ADN de ver à soie pour faire de la laine de ver, mais de la laine de ver vraiment fluorescente qui va éclairer les maisons en même temps. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, alors, on a, au niveau de l'arbre mytho-généalogique, ici, on a Lille, bon, on a Tourcoing, Roubaix et Wattrelos qui sont les parents de ce territoire. Ils essayent de s'entendre entre eux pour faire naître ce projet. Lille, c'est un peu la grand-mère du territoire. Ça a été longtemps la mère de ces trois villes et une mère castratrice, quelque part, puisqu'elle interdisait l'artisanat du lin et de la soie, et des ficelles en général. Et puis, alors, bon, c'est des villes que peut-être que vous ne connaissez pas trop. En gros, bon, ça, c'est, en tout cas, voici la grand-mère ici. La Tourcoing et Roubaix. Bon, aïe. Au niveau lacanien, bon, c'est intéressant parce qu'on a Tour et Coin. Ça pourrait penser au canard, mais en fait, on voit bien que c'est un coin, tour, c'est le fruit du travail du tour. Alors que roux, B, on a aussi B, baie. Ça ne fait pas référence au mouton, mais au fruit, la baie. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec Marseille. En tout cas, ça fait une roue qui fait des baies. Et donc, c'est vraiment le fruit du travail. Alors qu'avec Wattrelos, à ne pas confondre avec Waterloo, parce que ça les vexe. On a watt, l'unité de puissance, et relo, qui se fait solaire à l'envers. Donc on a vraiment des nouvelles technologies qui sont sous-jacentes dans le nom même de ces peuplades, enfin de ces brigades, enfin de ces villages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ah oui, juste intéressant, c'est qu'on a... Le problème dans ce projet, c'est que ces deux villes-là font 120 000 habitants, elles sont extrêmement connues dans le monde entier, même à Marseille. Et Wattrelos est plutôt le petit frère que personne ne connaît. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que, regardez bien, le plan de Wattrelos ressemble très fort à un lapin. Et en astrologie urbaine, c'est un symbole de fécondité. Et ça s'est vérifié puisque c'est via Wattrelos que les Belges sont venus peupler la région. Bon, cela dit, bon, tout cet endroit est un endroit de déshérence, c'est plein d'usines abandonnées, les sols sont pollués, c'est un véritable trou de bombe, c'est l'expression qu'on utilise quand on parle de la zone de l'Union là-bas. Alors nous, on a été chargés à la NPU d'essayer de remonter le moral aux gens, d'essayer de leur faire croire que c'était un projet intéressant, d'essayer de réconcilier la population avec ce projet. Et on a été chercher du côté de Jung, hein. On n'avait pas les moyens de faire autrement. Et on s'est aperçu que la dernière usine qui avait été détruite, qui avait fermé dans la région, c'est l'usine Terken, c'est une usine de bière. Un peu comme de la Valstar, s'il y a des connaisseurs. Vous voyez, genre, un peu que de la Pélican, quoi. Bref. Tout ça pour dire que, en fait, la Terkun était née sur les ruines de la grande brasserie moderne, que personne ne connaît. Mais n'empêche que, avant, il y avait la bière de l'Union. Et on s'est aperçu que la bière de l'Union était l'union de trois bières. Une bière qui était construite à Roubaix, une bière qui était fabriquée à Tourcoing. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, j'ai plus de courant. Ah, aidez-moi. Je vais cacher les... Il me faut absolument un technicien qui replombe... mette la prise, on a oublié de mettre la prise. Bon, je vais continuer quand même à raconter l'histoire, mais faites semblant de rien, mais je dirais moins ça. Bon sang. Donc... Ah non, c'est pas... J'ai le câble. Donc, parlez entre vous. Je vais... Racontez-vous des histoires. Allez, il y a bien quelqu'un qui a une blague marseillaise. Merci. Donc, jamais je m'y attendais. Je ne sais même plus parler le français. J'y crois pas. Nous sommes sauvés. Donc, qu'est-ce que je disais? Oh là! Donc, ce qui s'est passé, c'est que. On a découvert donc qu'il y avait là une brasserie qui faisait une bière avec trois bières différentes. Principe du 3 en 1. Principe divin, puisqu'on le retrouve par exemple dans les trois états de la matière. Solide, liquide, gazeux. Les trois états de la matière. Non, je ne me souviens plus. En tout cas... on retrouve ça dans le principe de l'huile 3 en 1. L'idée étant de réconcilier les trois mères qui ne s'entendaient pas vraiment. Donc durant la cérémonie d'ouverture de ce projet, on a offert aux trois mères en question des bouteilles d'huile 3 en 1. Pour qu'ils arrivent à s'accoupler, pas s'accoupler, mais à s'associer, je dis. Et ce qui nous a marqué aussi dans ce projet, c'est la forme même, hein. De la zone de l'Union. Si vous la regardez bien, morpho-cartographiquement parlant, c'est assez étonnant. Reconnaît ici les pattes avant, les pattes arrière, la queue, les oreilles ici, le groin. On a vraiment affaire à un sanglier. En plus, un sanglier qui joue au ballon. Et là, vous regardez dessiné un peu dans en clair obscur. Un cavalier. Comme si le projet en lui-même nécessitait une présence humaine sur ces territoires souvent vides de sens, vides de vie. Et on s'est dit, oui, pour sangler une présence humaine, ce cavalier à ce sanglier, il fallait une sangle. Et c'était intéressant, c'est là où c'est devenu incroyable, c'est que la sangle, là, on était obligé de poser ça là. Et à cet endroit, sur la carte, c'était justement... chez Salah. Je ne sais pas s'il y a des Roubaisiens parmi vous. Non. Je pourrais confirmer. Mais bon, il n'y en a pas. Tout ça pour dire. Et ça, c'était vraiment un symbole de ce qui, jadis, faisait la présence humaine, donner de la vie dans ces quartiers, c'est les estaminets. Les estaminets à Roubaix, par exemple, pour une population de 120 000 personnes, il y avait 2400 estaminets en 1913. Ça fait un estaminet pour 50 personnes. C'était des lieux où on jouait aux boules, mais là, à Roubaix, les boules sont géantes. Et c'est même pas des boules, c'est des sortes de palettes qui roulent même pas, mais les gens, ça les amuse quand même. Alors, il y a des trafics de coqs, vous allez dire, mais c'est du combat de coqs, plutôt, là. Et puis, bon, il y a des jeux comme ça où... Par exemple, ils jouent au Colin à Maillard, mais en fait, ils jettent les gens dans des bassines. C'est assez cruel. Tout ça pour dire quand même que les estaminets faisaient la vie jadis. Et mieux encore, si vous regardez bien celui-là, le Verbaudet, ils ont carrément donné des noms d'entreprises à Roubaix, comme le Verbaudet, les Trois Suisses, la Blanche Porte. Pour ne citer que les plus connus. Et c'est là qu'on a découvert l'utopie municipale quelque part, puisque, en fait, il faut savoir que vers les années 1850, la mortalité infantile à Roubaix, c'était 30%, 30% avant un an et 50% avant 5 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1880, une loi est passée au niveau national qui autorisait les gens à ouvrir des estaminets juste en échange d'une lettre envoyée à la préfecture. Il faut savoir qu'à la même époque, les ouvriers, lorsqu'ils allaient à l'usine, ils devaient présenter un livret de travail, c'est-à-dire que le patron faisait des appréciations sur sa façon de travailler, et quand c'était un agitateur, il faisait un trait rouge. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la loi sur les estaminets étant passée, tous les gens qui étaient fichés rouges, qui ne pouvaient plus trouver de travail, eh bien, ont ouvert des estaminets. Ce qui fait qu'en 1890, le premier maire rouge d'une ville d'une taille aussi impressionnante que Roubaix a été élu à Roubaix. C'est M. Charette, je veux dire Charette en nordiste. Et la moitié de son conseil municipal a été directeur d'estaminets. Vous avez vu, en 10 ans, grâce aux estaminets, une alternative enfin sérieuse avait été trouvée à la brutalité patronale de l'époque. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les gens de... Assieds-toi, tu vas rien comprendre, mais assieds-toi quand même. Tiens, je t'aime bien. Je tenais un livre, mais j'en ai même pas. Bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les socialistes de l'époque étaient un peu timides pour prendre le pouvoir. Et là, il y avait les gens qui soutenaient Jules Guedt, ceux qui soutenaient Gérard Jaurès, et ceux qui soutenaient personne, comme M. Carrette. Il a inventé un courant à lui tout seul, c'était le courant des possibilistes, c'est-à-dire des gens qui prenaient des mesures possibles. Ils rêvaient pas, quoi. Ils fantasmaient pas sur des trucs comme, je sais pas qui, là, le gars qui habite Besançon. En tout cas, tout ça pour dire que c'est là qu'on a trouvé l'essence même de l'utopie municipale. Et on s'est demandé à la NPU, mais comment faire des estaminets aujourd'hui, alors que plus personne ne boit? On a commencé à, je veux dire, développer le principe lors de la psychanalyse urbaine de Châlons en Champagne, où là, au niveau arbre mytho-généalogique, on s'est aperçu que la ville était née avec le croisement de la voie Agrippa et de la Marne. La voie Agrippa, c'était une sorte d'élément fécondateur de l'histoire. Et ça a croisé la Marne avec ses 11 bras, qui est un peu la mère de Châlons en Champagne, sauf qu'elle a 11 bras, donc elle est un peu possessive. Ce qui a sans doute nui au développement de Châlons. Assez vite, au 5e siècle, on s'est aperçu, morpho-cartographiquement parlant, que Châlons avait le regard orienté vers l'est, comme si elle était en attente d'un amant, hein, qui serait un jeune barbare, ou un jeune O1, un Allemand, en fait. Mais à l'époque, il ne s'appelait pas comme ça. Ensuite, la ville s'est développée, ses yeux se sont mis à briller, elle a commencé à développer l'artisanat du drap. Elle faisait partie du circuit elle vendait ses draps jusqu'en Flandre et jusqu'en Italie. Jusqu'au jour où elle s'est vraiment développée, au point d'atteindre la population de 20 000 habitants. C'était énorme à l'époque, au Moyen-Âge. Ça en faisait la 4e ville de France. Et elle a même imaginé un projet urbain avec toutes sortes d'églises autour de la ville même, autour des remparts, comme si elle espérait encore se développer et accueillir ses enfants, les enfants qu'elle aurait eus avec un jeune marchand vénitien. Et là, il y a eu un phénomène assez curieux, il y a eu une grève qui s'est déclenchée, qui a opposé les négociants et les commerçants de draps. C'est une grève qui a duré 100 ans, la fameuse grève de 100 ans, qui a coïncidé avec la guerre de 100 ans. Ce qui fait que les Anglais ont profité du marasme ambiant pour prendre la ville par derrière. la profanée, elle qui attendait de se marier avec un riche marchand vénitien. Et franchement, Chalon ne s'en est jamais remise. Elle s'est repliée sur elle-même. Sa population a baissé. Elle ressembla à une vieille fille avec un chignon. Là. C'est ce qu'on dit à Chalon. Et évidemment, l'État français a essayé de relancer sa libido quelque part en en faisant un centre administratif. Mais ça n'a pas marché. Chalon a raté un rendez-vous avec l'histoire qu'on appelle en psychanalyse urbaine l'accouchement des villes, qui survient dans des villes, par exemple, comme Tours, hein, ici, des villes entourées de remparts, donc des villes enceintes. Des villes enceintes qui vont mettre à jour des faubourgs nouveaux avec l'arrivée du train, qui souvent les défonce par l'arrière pour faire naître des faubourgs nouveaux. Et ce qu'il y a d'intéressant à Chalon, c'est que Chalon était sur la rive droite de la Marne et que la ligne Paris-Strasbourg a été placée sur la rive gauche. La ligne Paris-Orléans, il y a une gare de la ligne Paris-Orléans à Chalon, et je ne comprends pas pourquoi. C'est incroyable, géographiquement parlant, c'est assez absurde. Mais à l'époque, les gens avaient plus le temps qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit bien que Chalon refuse la double pénétration, ce qui ne va pas relancer sa fécondité. Il y a aussi un projet qui s'est passé dans les années 1970, c'est la pénétrante. À Marseille, ici, il y a une belle pénétrante, la 55, qui rentre vraiment dans le cœur de la ville. Et là, on voit que la pénétrante passe à côté du centre de Chalon pour aller vers Troyes, ici. Et il y a une fameuse blague à Chalon qui dit que c'est vrai que la pénétrante donne envie de faire l'amour, mais faire l'amour à Troyes. C'est de l'humour chalonné. Un autre endroit qui a mis à mort quelque part la libido chalonnaise, c'est ce qu'on appelle ici l'îlot G, sorte de point de frottement urbanistique, un point G, qui était complètement éradiqué à la suite d'un projet immobilier. Donc c'est une ville aujourd'hui qui est en train de dépérir, se refermer sur elle-même, sa population décroît à vue d'œil, d'autant que beaucoup d'usines ont fermé du côté de la rive gauche. Et donc nous, on était un peu désœuvrés, jusqu'au jour où on découvre là même, ici, une zone humide, une zone humide qui permettrait de relancer la libido de la ville. C'est pour cela qu'on a imaginé le concept de ZOB, de zone d'occupation bucolique, qu'on pourrait implanter ici pour relancer la libido de la ville. Une sorte de zone d'occupation bucolique qui permettrait de recréer du lien social par le travail, toutes sortes de pratiques, pas forcément d'inspiration bonobiste, ça peut être des entreprises culturelles comme des jardins ouvriers. Sauf que à Chalon, c'est une ville touchée par le chômage, donc on a mis au point aussi là, le concept de jardin chômeur. Malheureusement, il faut savoir que cette enquête avait été financée par les Champagne Perrier, Gérard Perrier ou Joseph Perrier, enfin c'est deux frères ou des cousins, et qu'ils nous ont mis en relation avec les ciments Lafargue et l'agence Mac Memram, hein, qui est connue un peu pour la passerelle à Strasbourg, vous connaissez peut-être, puisque c'est là qu'a eu lieu la réconciliation entre Angela Merkel et Barack Obama. Notez ici quand même l'absence de Silvio Berlusconi, puisqu'il est en train de téléphoner à sa maîtresse, âgée à l'époque de 15 ans. Donc l'agence Mac Memram nous a invités à proposer des ponts habités pour relier la rive droite et la rive gauche de Chalon, un procédé qui date du Moyen-Âge, puisque puisqu'on le voit on le voyait à Florence et ici à Sao Paulo, hein, sous le pont, c'est un musée. Mais et là, le projet qui est en train de se préparer à New York, avec des ponts habités qui relient Manhattan à Brooklyn et Brooklyn à Manhattan. Et donc ici, avec un pont qui relie Brooklyn à Brooklyn, on voit que ce sont des structures qui vont accueillir 20 à 30, voire 50 000 habitants. Et donc ça allonge les tours et ça atténue le côté phallique de New York. Et là, c'est la Courneuve, c'est un projet de pont habité actuellement en préparation à la Courneuve entre la cité des 400 ou des 4000, je ne sais plus. Et pour relier cette cité à un parc urbain, pour un peu régler les problèmes sociaux avec de la nature plutôt qu'avec des jets d'eau. Tout ça nous a fait faire un atelier d'initiation à l'urbanisme, de démocratie urbanistique participative à la taverne de la Croix d'Or, où on invitait la population à proposer des ponts. Donc cette idée de Chalon. On est dans la ville de Pierre-Dac, il ne faut pas leur en vouloir. Ici, un pont plus intéressant, puisqu'on le voit, il est capable de se rétracter pour laisser passer les bateaux. Après, on a eu un pont plieur de drap. Et puis, toutes les ponts en forme de bouteille de champagne, avec des piliers en forme de verre. Et le fameux pont Cornichon, en hommage aux Rémois, puisque les Rémois, lors des sacres des rois de France, avaient l'habitude de louer leur balcon à des touristes parisiens pour qu'ils regardent passer les rois. Et les balcons, à l'époque, s'appelaient les corniches, d'où le surnom de Cornichon, qui va très bien aux Rémois. Donc on a eu cette idée de super structure, hein, la ZOB du Muselet. Le Muselet, c'est un peu le système qui permet d'empêcher le champagne d'exploser. Donc l'idée, c'est via la comète ici en haut, d'alimenter un pipeline de champagne qui irriguerait sur le pont, la mégastructure qui irait de la rive droite à la rive gauche, des estaminets où on aurait des gens qui boiraient du champagne. Bon, ici quand même quelque chose d'intéressant, un exercice de renarcissisation du chalonnais, le fameux exercice du chalion. On le voit mieux. Ça marche bien. Ça leur a fait du bien, je vous assure. Ils avaient envie de nous dévorer après. Enfin, c'était drôle. C'était drôle à la taverne, ça finit. En tout cas, on a vraiment, vraiment un projet complètement infaisable. Mais on a bien rigolé. Avec quand même l'idée ici de rajouter une flèche à la cathédrale, parce que la cathédrale n'a pas de flèche. Enfin, elle n'a jamais eu. Donc l'idée de faire une flèche en forme de bouteille de champagne. Voilà. C'est un projet qui n'a pas été compris par les politiques. C'est un peu dommage. Mais ça nous a fait avancer. On a passé de l'utopie municipale à la ZOB. Et je crois qu'on a vraiment fait un grand pas. Là, c'est le fameux... Bon, ça, je laisse. Ça va vous décourager. Ensuite, on s'est retrouvé effectivement à Villeurbanne, hein, Villa Urbana, où là, on s'est aperçu qu'au niveau arbre mytho-généalogique, on avait comme père de Villeurbanne le Rhône. Le Rhône qui, jadis, au XIXe siècle, n'arrêtait pas de changer de lit. C'était un père qui couchait à droite à gauche, donc il n'y avait pas moyen d'en faire quelque chose. Il était ingérable. Ça donnait ça, par exemple, comme résultat. Et donc, le Rhône s'est un peu marié aux Lyonnais, aux industriels lyonnais, à Lyon, quelque part. Lyon, c'est un peu la mère de Villeurbanne, en créant des digues, un barrage, Ce qui fait que Villeurbanne, jadis c'était un marécage quelque part à cause des épanchements du Rhône, et Villeurbanne a pu s'extraire de son placenta pour devenir ça. Coincé donc entre le Rhône et Lyon, qu'on voit ici en rouge, alors que ce n'est pas une ville rouge du tout. On a aussi détecté des sortes de grand-mères dans cet arbre à Villeurbanne, en la personne de Lazare Goujon, qui a été maire de la ville dans les années 20-30, et qui était un chirurgien. Donc, Villeurbanne ressemblait à une sorte de bouillie urbaine. Ça a été construit n'importe comment. Elle aurait eu avec un jeune marchand vénitien. Et là, il y a eu un phénomène assez curieux. Il y a eu une grève qui s'est déclenchée, qui a opposé les négociants et les commerçants de draps. C'est une grève qui a duré 100 ans, la fameuse grève de 100 ans, qui a coïncidé avec la guerre de 100 ans. Ce qui fait que les Anglais ont profité du marasme ambiant pour prendre la ville par derrière, la profaner, elle qui attendait de se marier avec un riche marchand vénitien. Et franchement, Chalon ne s'en est jamais remise. Elle s'est repliée sur elle-même. Sa population a baissé. Elle ressemble à une vieille fille avec un chignon, là. C'est ce qu'on dit à Chalon. Et évidemment, l'État français a essayé de relancer sa libido quelque part en faisant un centre administratif. Mais ça n'a pas marché. Chalon a raté un rendez-vous avec l'histoire qu'on appelle en psychanalyse urbaine l'accouchement des villes, qui survient dans des villes, par exemple, comme Tours, hein, ici, des villes entourées de remparts, donc des villes enceintes. Des villes enceintes qui vont mettre à jour des faubourgs nouveaux avec l'arrivée du train, qui souvent les défonce par l'arrière pour faire naître des faubourgs nouveaux. Et ce qu'il y a d'intéressant à Chalon, c'est que Chalon était sur la rive droite de la Marne et que la ligne Paris-Strasbourg a été placée sur la rive gauche. La ligne Paris-Orléans, il y a une gare de la ligne Paris-Orléans à Chalon, et je ne comprends pas pourquoi, c'est incroyable, géographiquement parlant, c'est assez absurde, mais à l'époque, les gens avaient plus le temps qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit bien que Chalon refuse la double pénétration, ce qui ne va pas relancer sa fécondité. Il y a aussi un projet qui s'est passé dans les années 1970, c'est la pénétrante. À Marseille, ici, il y a une belle pénétrante, la 55, qui rentre vraiment dans le cœur de la ville. Et là, on voit que la pénétrante passe à côté du centre de Chalon pour aller vers Troyes, ici. Et il y a une fameuse blague à Chalon qui dit que c'est vrai que la pénétrante donne envie de faire l'amour, mais faire l'amour à Troyes. C'est de l'humour chalonné. Un autre endroit qui a mis à mort quelque part la libido chalonnaise, c'est ce qu'on appelle ici l'îlot G, une sorte de point de frottement urbanistique, un point G, qui était complètement éradiqué à la suite d'un projet immobilier. Donc c'est une ville aujourd'hui qui est en train de dépérir, se refermer sur elle-même, sa population décroît à vue d'œil, d'autant que beaucoup d'usines ont fermé du côté de la rive gauche. Et donc nous, on était un peu désœuvrés. Jusqu'au jour où on découvre là même, ici, une zone humide qui permettrait de relancer la libido de la ville. C'est pour cela qu'on a imaginé le concept de ZOB, de zone d'occupation bucolique, qu'on pourrait implanter ici pour relancer la libido de la ville. Une sorte de zone d'occupation bucolique qui permettrait de recréer du lien social par le travail, toutes sortes de pratiques, pas forcément d'inspiration bonobiste, ça peut être des entreprises culturelles comme des jardins ouvriers. Sauf que Châlons, c'est une ville touchée par le chômage, donc on a mis au point aussi là, le concept de jardin chômeur. Malheureusement, il faut savoir que cette enquête avait été financée par les Champagne Perrier, Gérard Perrier ou Joseph Perrier, enfin c'est deux frères ou des cousins, et qu'ils nous ont mis en relation avec les ciments Lafargue et l'agence Mac Memram, hein, qui est connue un peu pour la passerelle à Strasbourg, vous connaissez peut-être, puisque c'est là qu'a eu lieu la réconciliation entre Angela Merkel et Barack Obama. Notez ici quand même l'absence de Silvio Berlusconi, puisqu'il est en train de téléphoner à sa maîtresse, âgée à l'époque de 15 ans. Donc l'agence Mac Memram nous a invités à proposer des ponts habités pour relier la rive droite et la rive gauche de Châlons, un procédé qui date du Moyen Âge, puisqu'on le voit on le voyait à Florence et ici à Sao Paulo, hein, sous le pont, c'est un musée. Mais et là, le projet qui est en train de se préparer à New York avec des ponts habités qui relient Manhattan à Brooklyn. Et Brooklyn à Manhattan. Et donc ici, avec un pont qui relie Brooklyn à Brooklyn, on voit que ce sont des structures qui vont accueillir 20 à 30, voire 50 000 habitants. Et donc ça allonge les tours et ça atténue le côté phallique de Mars, de New York. Et là, c'est la Courneuve, c'est un projet de pont habité actuellement en préparation à la Courneuve entre la cité des 400 ou des 4000, je ne sais plus, et pour relier cette cité à un parc urbain pour un peu régler les problèmes sociaux avec de la nature plutôt qu'avec des jets d'eau. Tout ça nous a fait faire un atelier d'initiation à l'urbanisme, de démocratie urbanistique participative à la taverne de la Croix d'Or, où on invitait la population à proposer des ponts. Donc cette idée de Châlons. On est dans la ville de Pierre Dac, il ne faut pas leur en vouloir. Ici, un pont plus intéressant, puisqu'on le voit, il est capable de se rétracter pour laisser passer les bateaux. Après, on a eu un pont plieur de drap. Et puis, tous les ponts en forme de bouteilles de champagne, avec des piliers en forme de verre. Et le fameux pont Cornichon, en hommage aux Rémois, puisque les Rémois, lors des sacres des rois de France, avaient l'habitude de louer leur balcon à des touristes parisiens pour qu'ils regardent passer les rois. Et les balcons à l'époque s'appelaient les corniches, d'où le surnom de cornichon qui va très bien au Rémois. Donc on a eu cette idée de super structure, hein, la ZOB du muselet. Le muselet, c'est un peu le système qui permet d'empêcher le champagne d'exploser. Donc l'idée, c'est via la comète ici en haut d'alimenter un pipeline de champagne qui irriguerait sur le pont, la mégastructure qui irait de la rive droite à la rive gauche, des estaminets où on aurait des gens qui boiraient du champagne. Bon, ici quand même quelque chose d'intéressant, un exercice de renarcissisation du Châlonnais, le fameux exercice du chalion. On le voit mieux. Ça marche bien. Ça leur a fait du bien, je vous assure. Ils avaient envie de nous dévorer après. Enfin, c'était drôle. C'était drôle à la taverne, ça finit. En tout cas, on a vraiment, vraiment un projet complètement infaisable. Mais on a bien rigolé. Avec quand même L'idée ici, de rajouter une flèche à la cathédrale, parce que la cathédrale n'a pas de flèche. Enfin, n'a jamais eu. Donc l'idée de faire une flèche en forme de bouteille de champagne. Voilà. C'est un projet qui n'a pas été compris par les politiques. C'est un peu dommage. Mais ça nous a fait avancer. On a passé de l'utopie municipale à la ZOB. Et je crois qu'on a vraiment fait un grand pas. Là, c'est le fameux... Bon, ça, je laisse. Ça va me décourager. Ensuite, on s'est retrouvé effectivement à Villeurbanne, hein, Villa Urbana, où là, on s'est aperçu qu'au niveau arbre mythogénéalogique, on avait comme père de Villeurbanne le Rhône. Le Rhône, qui jadis, au XIXe siècle, n'arrêtait pas de changer de lit. C'était un père qui couchait à droite à gauche, donc il n'y avait pas moyen d'en faire quelque chose. Il était ingérable. Ça donnait ça, par exemple, comme résultat. Et donc, le Rhône s'est un peu marié aux Lyonnais, aux industriels lyonnais, à Lyon, quelque part. Lyon, c'est un peu la mère de Villeurbanne, en créant des digues, un barrage, ce qui fait que Villeurbanne... jadis, c'était un marécage quelque part à cause des épanchements du Rhône, et Villeurbanne a pu s'extraire de son placenta pour redevenir ça. Coincé donc entre le Rhône et Lyon, qu'on voit ici en rouge, alors que c'est pas une ville rouge du tout. On a aussi détecté des sortes de grand-mères dans cet arbre à Villeurbanne, en la personne de Lazare Goujon, qui a été maire de la ville dans les années 20-30, et qui était un chirurgien. Donc, Villeurbanne ressemblait à une sorte de bouillie urbaine. Ça a été construit n'importe comment, un peu comme la Belle de Mai. Et il a, quelque part, donné un cœur à la ville, une colonne vertébrale, avec un projet de gratte-ciel, des gratte-ciel qui ont été construits dans les années 30. C'était un peu les premiers qui étaient construits en France. Et ils ont fière allure, parce qu'ils ont été construits en plein centre de la ville. Et ils ont aussi, au centre des gratte-ciel, on voit l'hôtel de ville qui est encore là, hein, la poste, le fameux théâtre de Villeurbanne, le TNP. Et c'est encore des gratte-ciel qui sont magnifiques, qui sont encore fort appréciés par la population. Ce qui est quand même rare pour des gratte-ciel, pour des tours. Alors un autre grand-mère, c'est Charles Hernu, hein, qui a été le ministre de la Défense sous François Mitterrand. Et c'est quelqu'un qui va n'avoir de cesse que de défendre les intérêts villeurbannais vis-à-vis de la maire lyonnaise. Toujours une tension Villeurbanne-Lyon, comme entre une fille et sa mère, au point que sur le blason même de Villeurbanne, on voit un lion invectiver un dauphin. Parce que Villeurbanne faisait partie du Dauphiné, donc c'est un dauphin assez rachitique qui a que la peau sur les os, enfin que les écailles sur les arêtes. Donc, par rapport à cette tension mère-fille, un peu adolescente, je dirais, on a organisé un vote. Enfin, la tension mère-fille est même visible morphocartographiquement dans le dessin de Villeurbanne, puisqu'on voit carrément une fille invectiver sa mère. Vous la voyez ? Voilà. On a organisé un vote où on proposait soit à Villeurbanne de se rattacher à Lyon, d'être les 10e et 11e arrondissements de Lyon, pour faire une sorte d'équipe de football urbanistique, et soit réaffirmer son moi. Sauf qu'en psychanalyse urbaine, plutôt que de parler de ça, de moi et de surmoi, on parle plutôt de ça, de toi et de surtoi. Pour le rattachement à Lyon, on a attiré l'attention des Villeurbannais sur le projet du très grand Lyon, hein, celui qui va rattacher Saint-Étienne, Lyon et Grenoble, pour donner Saint-Lyon-Noble, avec le fameux maillot vert de Saint-Étienne, le lion et le dauphin, plus Villeurbanne, qui ne ressemble pas du tout à ça. et pour habituer quelque part les villeurbannais à cette emprise de Lyon, cette boboïsation, cette gentrification ou cette capuchinisation de Villeurbanne, ont proposé de changer le nom de l'artère principale de Villeurbanne, qui est le cours Émile Zola. Cours Émile Zola est plutôt là. Émile Zola, c'est quand même le symbole même du misérabilisme ouvrier. Donc on avait décidé de la changer en cours Gustave Flaubert. Et changer la supérette Zola en supérette Flaubert, le Zola, le cinéma, le Flaubert. Donc, en fait, on a proposé aux gens cette option, rattachement Lyon, et l'émancipation de Villeurbanne par rapport à Lyon. Donc, les Villeurbannais sont vraiment très fiers de leur rond-point. C'est un peu ce qu'ils ont réussi de mieux en urbanisme, avec les gratte-ciels, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de les réaménager en y rajoutant, en rattachant des éléphants. En voilà un autre. Et le dernier, c'est peut-être le pire de tous. Et l'idée, ça serait aussi de rebaptiser la place Charles Hernu en place de la Défense. Alors, tout ça pour dire quoi ? Ah oui, donc en plus de ça, Villeurbanne ressemble un peu à de la bouillie au niveau urbaine. Il y a des quartiers qui sont qui sont séparés du centre par l'autoroute et le Rhône, un bras du Rhône en tout cas. Le cœur de la ville est très éloigné du quartier nord. Donc on a cherché un projet qui pourrait redonner du lien social dans toute la ville. Et là aussi, morphocartographiquement parlant, on a été vraiment inspiré par quelque chose d'assez stupéfiant. C'est que si vous regardez bien les gratte-ciels, vous voyez bien ici un pied droit, un pied gauche, enfin une jambe droite, une jambe gauche, ici les pieds, là un bras, une tête avec deux yeux, et là donc un phallus dressé. On avait très clairement mis en évidence un Goldorak. Un Goldorak qui regarde son phallus, donc il se renarcissise. Tout simplement. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est de prolonger, de renforcer le surtoit villeurbannais par un Spider-Man qui a l'avantage, lui, de pouvoir faire du lien social avec ses fils de fer d'araignée. D'où cette idée donc de ZOB et de Spider-Man avec, en plus, un Parkerland. Une alternative à l'OL Land, Tony Parker étant actionnaire principal du club de basketball. Ici, on a imaginé ce qui pourrait être les estaminets de demain, c'est les fameux relais H. Après une rencontre avec des cultivateurs bretons, dans le cadre de la psychanalyse urbaine des Côtes d'Armor, on a été invité à la Cannabis Cup. On a rencontré toutes sortes de cultivateurs d'un produit que vous connaissez bien, un produit à forte valeur ajoutée, qui pourrait être cultivé dans des jardins chômeurs et revendu et goûté par des habitants villeurbannais. Et là, on a découvert aussi un concept typiquement villeurbannais, c'est le célibatarium, qui avait été construit juste à côté du barrage et qui accueillait donc des célibataires de l'EDF. Et on a imaginé donc de réinventer les célibatariums avec la compagne de Tony Parker, je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle ? Eva Langobarna, Branil, ça vous dit rien ? Vous ne regardez pas la télé ? Non, qui est-ce qui la connaît ? Comment ça s'appelle ? Les magazines, Non, plus, personne ne connaît, bon... Eva Lamborghini, voilà. Donc des lieux d'inspiration bonobiste pour chercher du travailler sur le contact avec les autres, la rencontre avec les autres et l'échange avec les autres. Ça peut aussi créer du lien social. Donc là, c'est le step 3 de l'utopie municipale. Et le dernier, bon, juste pour l'anecdote, on a fait voter les habitants de Villeurbanne et le projet de la ZOB Spider-Man a été choisi, a recueilli 95% des suffrages. Mais on n'a aucune suite pour l'instant. Pour terminer cette présentation, le Grand Cergy, une ville nouvelle. Là, j'ai envie de dire... on a vite détecté à Cergy un grand-père spirituel en la personne du général. Du général qui, au début des années 60, décide la création de 5 villes nouvelles autour de Paris. Pour quelque part désengorger la capitale. Qui était à l'époque vraiment encerclé par les bidonvilles. Il décide ça au volant de son hélicoptère, en survolant la métropole parisienne et en disant à son bras droit « Rangez-moi, rangez-moi tout ce bordel !» Et son bras droit, à l'époque, n'est autre qu'un certain Paul Delouvrier. Personne ne connaît. Non, personne, vraiment. C'est quelqu'un qui a eu un CV impressionnant, un grand résistant. Il a préparé le traité de Rome. Il s'est occupé de... Il était consul d'Algérie. C'est lui qui a créé la Villette. Et quand le général lui propose ça, il ne connaît rien du tout en urbanisme. Mais durant la nuit qui suit, il lit les œuvres complètes de Haussmann. Et il comprend que pour mener à bien ce projet, il lui faut absolument un carnet de chèques énorme. Ça va être un peu le père porteur du projet, dans le sens où il va vraiment porter le projet, mais il va aussi trouver ce qu'on appelle en psychanalyse urbaine des mères porteuses à ces villes nouvelles. Ça va être par exemple Corbeil pour Évry. Corbeil-Évry, ça va être Melun pour Melun-Sénart. Ça va être les Yvelines pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ça va être la Marne pour la Vallée. Et pour Cergy, ça va être Pontoise. Pontoise, qui à l'époque est représentée sous la forme d'une jeune fille, hein, à qui Delouvrier ramène une sorte de un saucisson. C'est un peu une version métaphorique de l'histoire de la petite graine urbaine. Sauf que Pontoise, à l'époque, est déjà une ville assez âgée. Elle se destine plutôt au patrimoine. Elle a envie de devenir la ville des impressionnistes, alors qu'il y en a déjà au moins 25 dans la région. L'accouchement va être vraiment difficile, puisque les agriculteurs vont s'opposer pendant des années à la création de la ville. La naissance va être vraiment douloureuse, puisqu'en quelques années, là on est du côté de Pontoise, Pontoise va naître un enfant énorme, gigantesque. Donc encore aujourd'hui, la naissance de Cergy est vécue comme une sorte de grossesse pas désirée, voire d'un viol administratif. D'autant que le premier bâtiment qui a été construit dans les champs de Cergy, c'est la préfecture. Qu'on voit là, une préfecture en forme de pyramide inversée qui montre que la vocation de Cergy, c'était d'inverser les valeurs, d'être à la mode. On est un peu dans l'esprit de 68. Autre détail intéressant dans morphocartographiquement parlant, c'est que on voit très clairement que la boucle de l'Oise autour de laquelle a été bâti Cergy, forme une sorte de pas de danse, comme ça. Ce qui est le symbole de ce qui fait aujourd'hui la fierté de la ville de Cergy, c'est la densité urbaine. La densité urbaine, puisqu'il y a à Cergy 10 arbres par habitant sur une population pour une population de 200 000 habitants, alors qu'on est sur un territoire équivalent à celui de Paris, ce qui fait, où, à Paris où il y a cette fois-ci, je crois, un arbre pour 10 habitants. Vous voulez que je le redise une fois ? Il y a 10 arbres par habitant à Cergy, sur un territoire équivalent à celui de Paris. Où il y a à Cergy, il y a 200 000 habitants, et à Paris, il y a un arbre pour 10 habitants. Et une de blagues qui court à Paris, à Cergy, c'est que... c'est pas terrible, mais je le dis quand même, parce qu'il faut vous partager l'humour local, c'est que si les Parisiens font tous les efforts possibles pour être branchés, c'est parce qu'il manque d'arbres, tout simplement. Excusez-moi, mais c'est pas de ma faute. Au niveau du PNSU, ce qu'on a essayé de traiter, c'est la liaison mère-fille, Pontoise-Cergy, qui est entravée par une autoroute énorme, la 15, et qui empêche, on le voit bien, morphocartographiquement parlant, les deux villes de prendre leurs pieds. Donc on a traité encore une fois avec des ponts maraîchers, des ponts au lancé, des ponts jumeaux, la rampon. Parce qu'une grande fierté de Pontoise, c'est la fête du hareng, qui se passe boulevard François Mitterrand, d'où l'idée de baptiser ce pont le pont Mitterrand. C'est l'humour local. Hein. Donc tout ça pour renforcer un RER. Mais le PNSU le plus intéressant à Cergy, c'est quand même la dalle. C'est un des problèmes qui arrive souvent dans les villes nouvelles, c'est la dalle. C'est-à-dire que les villes nouvelles ont souvent été construites pour que les gens ne touchent pas le sol durant des années. Ils flottent un peu dans l'air. Sauf qu'au bout de 40 ans, la dalle commence par s'effriter. Elle menace de s'effondrer à chaque instant. Et surtout, elle laisse des zones d'ombre qui sont difficiles à gérer pendant la nuit. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de rafraîchir cette dalle. D'autant que lacaniquement parlant, la dalle a vraiment une importance importante à Cergy, puisque une des vocations des villes nouvelles, c'était d'assurer des emplois à ses habitants. Donc ça devait être des villes riches économiquement, elles ne devaient pas crever la dalle. Et en même temps, elles se devaient d'être modernes, donc de ne pas être à côté de la plaque. D'où l'idée qu'on a eue de réoxygéner cette sous-dalle en travaillant sur un des thèmes de prédilection de la NPU, c'est de réconcilier les gens avec les rites funéraires. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on travaille avec les charitables, une confrérie à Béthune qui s'efforce d'enterrer les gens dans la bonne humeur pour faire de ce moment si douloureux un moment de fête. Donc l'idée, c'est de mettre sous la dalle des cimetières de confessions différentes. Et comme Cergy a quelque part signé un pacte avec la nature, c'est d'injecter dans ce cimetière des animaux comme des corbeaux, des serpents et des renards, puisque les premiers habitants de Cergy étaient des renards, comme le montre cette publicité. Donc toujours l'idée de la ZOB Cergy-Soise, c'est donc d'y installer des cimetières, d'y installer également des serres à champignons, qui ne seraient pas des champignons de Paris, mais des champignons de Cergy, qui seraient donc préparés par des botanistes néerlandais, des botanistes boliviens ou mexicains. Il pourrait alimenter des reléaches qui seraient ici d'inspiration sataniste, voire gothique, puisqu'on pourrait y faire du spiritisme, y manger des omelettes aux champignons. Et il y aurait bien sûr des célibatariums. Ce projet a plu, parce que c'est une ville qui est jeune, qui peut encore évoluer. Et juste pour terminer, ce qui nous a vraiment surpris à Cergy, c'est que c'est une ville qui affirme son sur-toi, son sur-toi et moi, je veux dire son sur-nous, enfin, avec une proposition assez pharaonique, égyptienne, je dirais, très, puisqu'elle fait 3 km de long, c'est un peu du land art monumental, qu'on a baptisé là-bas l'axe majeur, avec sur ces 3 km de long 12 installations, comme ces 12 colonnes. Ici, il y a une pyramide qui fait un petit clin d'œil au Louvre, et là, une installation incompréhensible. Mais en tous les cas, cet axe, on le voit là, montre une direction, et on s'est aperçu que cet axe coupait l'axe historique de Paris, ici, l'axe historique de Paris où passe donc le Louvre, les Champs-Élysées, la Défense. Et elle coupe l'axe historique de Paris ici, sur une île, sur la Seine, baptisée l'île des impressionnistes, ce qui ramène à la mer, bien sûr. Et on dirait que c'est une invitation inconsciente de Paris pour que Cergy la fasse basculer vers l'avenir, comme ça, comme un levier. Stock, floch, stock, floch. Et l'avenir, qu'est-ce que c'est ? C'est le Grand Paris. Le Grand Paris qui projetterait donc Paris jusqu'au Havre. Sauf que la vocation de Cergy, c'est aussi de décentrer Paris, donc de passer de l'île de la Cité à l'île des impressionnistes. Pour ce faire, on a imaginé une proposition architecturale un peu ésotérique et un peu religieuse. Une sorte de pyramide inversée, au centre desquelles seraient organisées régulièrement des transes chamaniques, alimentées par des champignons de Cergy, et entourées de 12 colonnes, qui seraient autant de représentations des 12 religions principales de nos civilisations. Alors je me dépêche parce qu'il ne reste plus que 2 minutes, mais là, pour dire que cette capitale, Cergy, le destin de Cergy, c'est non seulement de basculer Paris vers le Grand Paris, mais de basculer Paris vers le Très Grand Paris, puisque l'axe majeur pointe Londres, donc le Très Grand Paris devra aller jusqu'à Londres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon au niveau du temps ?
C'est parfait. Merci beaucoup, Laurent Petit. On écoutait World Analysis 2 sur les ondes de la grenouille et depuis l'Alcazar, une conférence de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine dans le cadre du festival Small is Beautiful. Pour peut-être encore plus d'informations sur le travail de cette agence, n'oubliez pas de visiter le site www.anpu.fr. Et puis par ailleurs, puisqu'on est sur les sites internet, tout le programme du festival Small is Beautiful est sur www.lieupublic.com. Les bancs publics de leur côté, qui soutenaient aussi cette soirée, préparent les prochaines rencontres à l'échelle. Ce sera du 4 au 29 novembre et un avant-goût sur leur site bancpublic.free.fr. Le prochain rendez-vous de Sirène et Blablabla, ce sera mercredi 4 novembre à 18h. Il y sera question de la parole dans l'espace public autour de la proposition de Fred Nefcheirlian. À la technique, aujourd'hui, c'était Tony Regnault. Et en attendant, sur les 3-8 ou à l'Alcazar, bonne soirée.